Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une comédienne qui a été la comédienne la plus populaire en France dans les années 60 à 80. Une comédienne qui n'a pas été une star, qui n'a pas été une icône comme pouvait l'être Brigitte Bardot, qui n'a pas été non plus une militante comme ont pu l'être certaines comédiennes qui se croyaient obligées de nous donner leur point de vue sur tout et parfois sur n'importe quoi. Une femme qui finalement n'a jamais été vraiment à la mode et qui, paradoxalement, a toujours été dans le vent. Une femme qui n'hésitait pas à dire qu'elle aimait faire la cuisine, qu'elle aimait aussi rester chez elle. Cette femme, c'est Annie Girardot. Annie Girardot, elle est née en 1931, le 25 octobre, pour être plus précis, elle est née à Paris. Et elle n'a pas de père. Sa mère est une dactylo, mais ça, elle l'apprendra beaucoup plus tard. Et pour élever ses enfants, Annie a un frère. Raymond, c'est le prénom de la mère, va entreprendre des études pour devenir sage-femme. Au départ, elle était une simple dactylo. Annie Girardot apprendra tout ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et pendant longtemps, elle a cru, peut-être parce que on le lui a laissé croire dans son entourage, elle a cru, comme on disait à l'époque, qu'elle était une bâtarde, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de père. En fait, son père est mort alors qu'elle avait un an, donc évidemment, elle ne l'a jamais vu. Enfin, elle l'a peut-être vu, mais elle était trop jeune pour s'en souvenir, et ses parents n'étaient pas mariés. Pour poursuivre des études, sa mère, petite dactylo, la place chez des amis pour suivre sa formation, elle a décidé de devenir sage-femme. Dans cette famille d'accueil, lui est médecin. Le drame, c'est que le couple ne peut pas avoir d'enfant. Et le couple, Annie va s'en rendre compte assez vite, envisage de l'adopter. Heureusement, sans doute, la mère ne l'entend pas ainsi. Et alors qu'elle a obtenu son diplôme de sage-femme, elle revient prendre son enfant 4 ans plus tard. Annie a alors 5 ans. On a dit que sa mère de substitution, ce qu'il avait recueilli alors qu'elle avait 1 an, serait le personnage, plutôt le modèle qui a servi à écrire Madame Marguerite, une pièce que Annie Girardot jouera plus tard. Donc Annie Girardot retourne chez sa mère à 6 ans et demi. Elle suit l'école de l'assistance publique. À 36 ou 37 ans, sa mère lui apprend la vérité sur sa naissance, à savoir qu'elle avait un père, que ce père est mort alors qu'elle avait 1 an. Jusque-là, Annie croyait que son père ne l'avait pas voulu la reconnaître. À l'époque, on ne pouvait pas reconnaître l'enfant si on n'était pas marié. Plus tard, bien plus tard, à 43 ans, elle va découvrir par hasard une photo de ce père, mort à l'hôpital, s'appelait Efflinger, il était belge, de Strasbourg. Mais on peut penser que cette enfance passe simplement placée sous le signe du silence, a quand même marqué. Au début, la mère de d'Annie Girardot est sage-femme à Bénouville, en Normandie. Et c'est une sage-femme qui est reconnue, dont on apprécie les mérites. C'est une sage-femme qui a imposé à Bénouville la célébration de la fête des mères. Et tout le monde s'accordait pour reconnaître ses qualités humaines et ses qualités de sage-femme. Et puis, la mère et la fille partent à Paris. Et Annie Girardot décide de passer le concours d'entrée au conservatoire. C'est en 1952. Elle a un collègue qui fera parler de lui. Entre autres, elle est la collègue de Jean-Paul Belmondo. Elle réussit brillamment le concours d'entrée. On trouve qu'elle fait rire. On l'aime bien. Et en 1954, elle sort du conservatoire avec deux prix. Un de comédie classique, l'autre de comédie moderne. Donc, Girardot a quand même une formation de comédienne. Et ses professeurs au conservatoire sont d'accord pour dire une chose, elle peut tout jouer. Deux prix, comédie classique, comédie moderne, c'est la porte ouverte à la comédie française, elle va y rester 2 ans. Et puis, on fait appel à elle de l'extérieur, notamment Jean Cocteau, qui lui demande d'interpréter une de ses pièces, La machine à écrire, d'après une affaire célèbre qui s'est passée à Tulle de lettres anonymes. Et arrive enfin, si je peux dire, le cinéma. Le premier film où elle a un rôle important. Elle a aussi la chance de tourner aux côtés d'un acteur qui est plus que célèbre, Pierre Freinet. C'est l'homme aux clés d'or de Léo Joanneau. Et puis, en 1957, elle tourne pour la première fois avec Jean Gabin dans Le Rouge Émis. Aux côtés de Jean Gabin, il y a Lino Ventura, il y a Marcel Bozzuffi. Et si on peut dire, une des caractéristiques du film, c'est que Annie Girardot, pour une sombre histoire de truand, reçoit une magistrale paire de baffes de Jean Gabin. D'ailleurs, je rappelle au passage que Jean Gabin avait aussi donné une belle paire de baffes à une autre débutante, Jeanne Moreau. N'en touchez pas au Grisby, mais revenons, à Annie Girardot. Annie Girardot, au début des années 72, 10, alors que le débat est en pleine actualité, reconnaît avoir à cette époque pratiqué un avortement qui l'a traumatisée. Elle dira alors, bien des années plus tard, j'ai avorté 2 fois dans ma vie, donc je sais ce que c'est et quelle souffrance cela représente. C'est une chose atroce. Je vous propose une première pause musicale.
Je me souviens encore de son fin profil. Lorsqu'un soir au bal nous fîmes connaissance, elle était charmante et mince comme un fil. De grands yeux rêveurs et plein d'innocence, tout dans sa personne était délicat. Elle voulut bien m'accorder une danse et je me disais, pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence, elle est épatante, cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. On s'est retrouvés au hasard des jours chez d'autres amis qui nous invitèrent, et je lui faisais discrètement la cour. On sympathisait comme caractère, et puis l'existence nous a séparés. Mais j'ai conservé le souvenir idyllique de son corps menu, joliment cambré, et de sa voix douce au timbre angélique. Elle est épatante, cette petite femme-là, me dis-je en songeant qu'elle m'en sort cela. Qu'est-elle devenue? Je n'en sais rien, mais moi je me souviens. Malgré le temps passé, je revois devant mes yeux son air enfantin, ses gestes gracieux. Et mon cœur bien vite la reconnaîtra, il n'y en a pas deux comme ça. Cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça.
Peu après le temps, peu après la sortie de Le Rouge Émis, Annie Girard retrouve Jean Gabin, dans un des films qui est sans doute une des meilleures adaptations de Georges Simenon, Maigret dans un piège. Maigret dans un piège, Girardot tourne aux côtés de Jean de Sailly, de Lucienne Bogarde. Et ce qui est étonnant, c'est que l'histoire, rapidement, un homme, Jean de Sailly, est accusé d'avoir tué plusieurs femmes. Il est arrêté et les meurtres continuent. Plutôt, un autre meurtre se produit. Heureusement, Maigret réalise qu'en réalité, la coupable, c'est sa femme, Annie Girardot, qui voulait ainsi sauver son mari. Je vous propose d'écouter Jean Gabin.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui, à part d'eux, qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Alors, l'aisance venant, Gérardo est de plus en plus connu. Elle achète un appartement très cher, place des Vosges. Oh, elle a des voisins célèbres, elle est la voisine de Jean-Claude Brialy, de Delphine Seyrig, de Samy Fray, de Francis Blanche. Au théâtre, elle joue une pièce qui aura un succès considérable, Deux sur la balançoire, avec Jean Marais. Et puis surtout, en 1960, un événement qui va bouleverser complètement sa vie. Elle va tourner son premier vrai grand rôle aux côtés d'un maître du genre, Luchino Visconti. Le film, c'est Rocco et ses frères. À ses côtés, il y a Alain Delon, Renato Salvatori, Suzy Deleuze, Claudia Cardinale, Roger Hanin. C'est une histoire magnifique où Gérardo joue le rôle d'une prostituée qui est amoureuse de Rocco Delon. Malheureusement, son frère, Renato Salvatori, ne l'entend pas de cette oreille et finit par la tuer dans une scène assez difficile à supporter. Mais en dehors du cinéma, l'événement pour Annie Girardot, c'est qu'elle tombe folle amoureuse de Renato Salvatori. Au point que ils vont se marier 2 ans plus tard. Ils vont avoir une petite fille, Julia, en 1962. Et le mariage va durer jusqu'à la mort de Renato, en 1988. Annie Girardot, c'est quelqu'un qui ne divorce pas. Peut-être que son enfance en est une explication suffisante. Alors, elle retourne aussi au théâtre. Elle crée L'idiote de Marcel Achard. Elle va aussi tourner en Italie un film qui fera beaucoup parler d'elle. Le mari de la femme à barbe de Marco Ferreri. Marco Ferreri, c'est le cinéaste qui adore le scandale. Et c'est l'histoire d'un pauvre type qui s'appelle Ugo Tognazzi, qui découvre une femme qui a une pilosité très abondante et qui décide de la montrer dans les foires. Gérardo accepte le rôle. Alors, si vous avez vu le film, j'ignore quelle version vous avez vue. En fait, il y a 2 fins qui sont prévues. Alors, peut-être avez-vous vu l'une ou l'autre. Dans la première fin, la femme à barbe a un enfant. Elle meurt à la naissance de cet enfant. Ça, c'est la première fin. Deuxième fin, beaucoup plus commerciale. À l'accouchement, la femme perd sa pilosité et tout finit par un mariage avec le père de l'enfant. Alors maintenant, je vous propose une autre pause musicale.
« comme moi des choses tendres. Votre beau discours, mon corps n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que pour vous, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix dans son caressant, il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que pour vous, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor des princes fous, la vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies apaisées et se console d'un baiser du cœur qu'on guérit la blessure par un serment qui leur assure. Parle-moi d'amour, redites-moi de votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
Annie continue sa carrière, elle est de plus en plus populaire. Il va y avoir un premier accro en 1968, lorsque Marcel Carnet, le réalisateur des Enfants du Paradis, lui propose de tourner une adaptation d'un roman de Simenon, Trois chambres à Manhattan. Ses partenaires sont des comédiens remarquables, notamment Maurice René. Oh, l'histoire, c'est l'histoire de deux paumés qui se retrouvent et qui vont essayer d'unir leur solitude. Malheureusement, Marcel Carnet, avec un franc-parler qu'il a toujours eu, a déclaré à propos de la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, etc. La Nouvelle Vague, ce sont des impuissants congénitaux. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et on va le lui faire payer très cher. Le film est descendu par la critique, Truffaut en tête, et il n'aura finalement aucun succès. Mais bon, il faut bien continuer à travailler. Et elle va tourner au théâtre, notamment une pièce qui n'est pas forcément géniale, mais qui a quand même son importance. Elle va tourner dans une pièce de Arthur Miller qui s'appelle « Après la chute ». « Après la chute », c'est tout simplement, enfin, si on peut dire, tout simplement le récit de la mort de Marilyn Monroe. C'est un peu bizarre quand on réfléchit, parce que Annie Girardot incarnant Marilyn Monroe, il y avait là quelque chose qui ne tenait pas la route. Mais bon, entre-temps, sa relation avec Renato Salvatori s'est arrangée par, si on peut dire, par une séparation, c'est-à-dire chacun mène sa vie de son côté, sans, et je l'ai dit tout à l'heure, sans toutefois divorcer. Alors, elle a des aventures, une avec Claude Lelouch, avec quand elle tourne Vivre pour vivre, une aventure très brève avec Jacques Brel. Elle va aussi, en 1968, tourner un film qui, à mon avis, n'a peut-être pas eu tout le succès qu'il méritait, qui s'appelle La bande à Bono, un film de Guy Forestier, où il est question justement de la bande anarchiste qui a terrorisé la France au début du XXe siècle. C'est là qu'elle va rencontrer Jacques Brel. Et aux côtés de Jacques Brel, il y a Bruno Kremer, et elle joue Maria la Belge. Sa composition est assez remarquable dans ce film. Cela dit, ce n'est pas parmi les grands succès d'Annie Girardot. Alors elle va tourner toute une série de comédies qui vont la rendre très populaire, mais dont on ne peut pas dire qu'elles ajoutent grand-chose à la gloire du cinéma français. Elle va tourner Erotissimo, aux côtés de Jean-Yann. Oh, c'est un film, une petite comédie, où on parle des gens qui veulent à tout prix être érotiques, où l'érotisme doit triompher, où il faut jouir pour être heureux. Évidemment, c'est tourné en farce. Et puis, il va y avoir deux films dont on va beaucoup parler. D'abord parce que leur titre est pratiquement impossible à mémoriser. Le premier, en 1969, s'appelle « Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause ». Un film de Michel Audiard. Signalons qu'il va y avoir un deuxième film trois ans plus tard, qui va être beaucoup plus facile à retenir, « Elle cause plus, elle flingue ». Annie Girardot acquiert sans doute une célébrité incroyable avec ses films. Je vous propose une petite pause musicale.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait, au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir. Quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul, peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Et Girardot continue, entendant des films où le meilleur voisine un peu trop souvent avec le moins bon, notamment avec un film de Guy Cassari qui s'appelle Les Novices. Alors on s'imagine que en mettant Annie Girardot et Brigitte Bardot à la même affiche, on va faire un tabac. En fait, ça fait un flop monumental. C'est vrai que aujourd'hui, revoir le film enlève plus de l'épreuve de fond que du plaisir. Elle tourne aussi Juliette et Juliette avec Marlène Jobert. On essaie toujours, avec Girardot, de mettre à côté une vedette un peu comme elle pour essayer de faire mousser l'affiche. Ce n'est pas forcément inoubliable. Si, un film quand même, où elle n'a pas le premier rôle. Tout simplement parce que la vedette lui est volée par le partenaire masculin et sa partenaire féminine. Le film, ça s'appelle La Gifle, avec Lino Ventura et Isabelle Adjani. Et dans La Gifle, on retient deux noms. On retient Isabelle Adjani et Lino Ventura. Mais enfin, Girardot est là, elle est bien là sur l'affiche. À cette époque, elle est populaire. On considère que c'est l'artiste, l'actrice la plus populaire de France. Elle est très bien payée et elle continue sa carrière. On se demande un peu si elle avait un plan. Je pense que, je peux me tromper, je pense que Annie Girardot a vécu sa vie et a construit sa carrière. Plutôt, on n'a pas construit sa carrière. Elle a pris les opportunités comme elles se présentaient. Ce n'est pas une femme de tête, ce n'est pas une femme qui calcule. Elle prenait les choses un peu comme elles arrivaient. Et parfois, il faut bien reconnaître, elle n'arrivait pas forcément en bon état. Alors, un film qui n'est pas sans qualité, un film de Philippe de Broca, où elle joue aux côtés de Philippe Noiret. Le film s'appelle « On a volé la cuisse de Jupiter ». Un autre film, avec toujours de Philippe de Broca, avec Jean Rochefort, le cavaleur. En 1978, elle joue La clé sur la porte d'Yves Boisset. Alors, La clé sur la porte, c'est le film a été tourné parce que c'est tiré d'une œuvre qui n'est pas tellement un roman, qui est plutôt un livre de souvenirs, un livre de Marie Cardinal. À ses côtés, Il y a un tout jeune débutant qui va faire beaucoup parler de lui. Ce jeune débutant, c'est Patrick Devers. On voit quand même que dans la carrière d'Annie Girardot, les occasions de rencontrer les plus grands comédiens n'ont pas manqué. Peut-être lui a-t-il manqué l'occasion de rencontrer les plus grands réalisateurs français. Ce qui est bizarre, d'ailleurs, quand on réfléchit, les grands réalisateurs qui l'ont fait travailler étaient italiens. Visconti, tout d'abord, avec Rocco et ses frères, mais aussi Marco Ferreri. En France, on se demande si les réalisateurs connus, les réalisateurs à la mode, avaient tellement envie de faire tourner Annie Girardot. Et là, nous allons arriver à un des films dont on a le plus parlé, Mourir d'aimer, d'après l'affaire Gabriel Russier. Mais je vous propose d'en parler lors d'une prochaine rencontre et je vous remercie de m'avoir écouté.
On n'a pas d'abri, on vit dans les rues sans fin. On a le ventre vide et le cœur meurtri, et l'on crève de froid et de faim. Mais nous avons nos richesses malgré tout, le vent du soir, le printemps si doux, tout ça c'est à nous. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. Nous les gars sans fortune, nous avons nos trésors. Seul un rayon de lune vaut le plus beau décor. Ici à la belle étoile, on sera toujours heureux. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux. Y a pas de tapis en dessous des ponts, ni de ciel de lit en soie. Mais il y a de l'air, je vous en réponds, et puis l'on s'y trouve chez soi. On est bercé par la chanson du vent, on n'a pas chaud, mais on fait pourtant des rêves enivrants. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. Nous les gars sans fortune, nous avons nos trésors. Seul un rayon de lune vaut le plus beau. Ici à la belle étoile, on sera toujours heureux, tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 101.4 à Nogent-le-Rotrou.
Radio Grand Ciel sur la bande FM et sur internet en direct ou en podcast grâce à notre site www.radiograndciel.fr.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.